Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Stéphanie Reynaud.
Enlever et ne jamais remettre. Le conseil artistique de Gabrielle Chanel inspire aujourd'hui les éco-concepteurs de la marque au double C. Pour son défilé printemps-été 2013 sous la verrière du Grand Palais, Chanel faisait déambuler ses mannequins au milieu d'éoliennes posées sur de faux panneaux solaires. L'heure est au développement durable. Des flacons plus légers, des notices rédigées directement sur l'emballage, des modes de transport plus doux et la commercialisation de recharge, la tendance de fond est là, les préoccupations environnementales sont bel et bien présentes dans la stratégie de la célèbre maison de luxe parisienne. Michel Dupuis, directeur général des achats et développement packaging chez Chanel.
On s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait, de la part des gouvernements, une envie de faire de l'étiquetage environnemental sur les produits cosmétiques. Déjà, ce sont des livres, parce qu'il y a plein de choses écrites, mais on va encore ajouter des choses aux grandes dames de notre direction artistique. Mais néanmoins, on va essayer de caser quelques petits éléments, bon, on ne sait pas quoi. Hein. Ça devait arriver en 2011 d'ailleurs, pour reporter en 2013 peut-être. Et on ne sait pas parce que les gouvernements avaient quand même d'autres chats fouettés, donc ils se sont occupés un peu d'autre chose. Donc c'était un peu l'origine de notre démarche. Bien qu'on ait une conscience en termes de développement responsable, on avait démarré en 2008, hein, d'ailleurs, un bilan carbone dans la société. On s'est aperçu que le packaging était le mauvais élève de la classe parce qu'on représentait 50% des émissions de CO2. Ensuite, c'était le transport des produits vers nos filiales et vers nos clients. Et ensuite, le transport des personnes pour aller au bureau tous les jours ou pour voyager, comme aujourd'hui, on a pris l'hélicoptère, l'avion, etc. Donc ça, c'est des émissions de CO2. Vous savez, les clients du luxe, quand on achète un produit tel que les nôtres, la cliente se dit « mais bon sang de bois, ils ont quand même fait tout ce qu'il fallait autour. Ils ne vont pas aller polluer les rivières. Ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas faire travailler les enfants. Ils ont utilisé des matières qui ne polluent pas la nature. Ils imaginent qu'on a fait ce qu'il fallait. » Donc la première chose à faire, et là peut-être avant de communiquer, c'est de le faire.
Faire un peu mieux demain ce qu'il faisait hier, encore que la maison Chanel faisait déjà dans l'éco-conception avant même que l'expression ne soit à la mode.
On a l'habitude de penser que faire du luxe, c'est d'en faire un peu trop. Hein. C'est de faire des produits lourds, des produits chargés. C'est un peu ça hein, dans le passé. Hein. Et en fait, on a Coco Chanel qui a dit un jour, toujours enlever, jamais remettre. C'est un petit peu sa façon de voir. Et on s'est amusé à regarder un peu dans notre conservatoire, dans notre musée. Et on s'est aperçu qu'effectivement, et à l'époque, lorsque les produits de Chanel en 1929, en 1930, en 1935 étaient conçus, bah, ils étaient quand même relativement simples. Hein. Il y avait un rapport, je dirais, par rapport aux matériaux qui était simple, des matériaux simples, peu nombreux, pas chargés. On avait une bonne optimisation de la masse et du volume, des poudres libres qui sont tout à fait près du produit, il n'y a pas de matériaux en trop. Hein. Des décors simples, c'est marrant, quand on va dans les musées de nos propres produits, on réapprend des choses qu'on a peut-être un peu oubliées. Puis alors, le truc qui m'avait choqué, c'est qu'en 1950, on avait déjà fait un rouge à lèvres rechargeable. Donc, comme quoi, c'était déjà dans l'idée des gens, alors qu'aujourd'hui, quand on pense à faire de la rechargeabilité, on dit ah, on tient un sacré truc, c'est vachement innovant. Ben non, c'est vieux, parce que ça date d'il y a très longtemps. Il n'y a pas que Chanel, hein, d'autres marques aussi avaient fait des rechargeables. La réutilisation, bon, par exemple, c'était les pompes, les poires. Bon, on voit aussi aujourd'hui revenir les poires, parce que ça se démonte, on peut changer de produit. Bon, pas trop les mélanger quand même, mais c'est utile. Et puis ensuite, la réutilisation des produits, parce qu'il y a des coffrets en cuir. On peut réutiliser ces coffrets. C'est la réutilisation, fait partie des bons gestes.
Une fois le bilan carbone de la société réalisé et les secteurs les plus énergivores identifiés, Chanel a mis en place, depuis 2009, une série d'actions pour réduire ses émissions de CO2. Parfois, il a simplement suffi de remettre un peu de logique dans le transport des marchandises. Ainsi, Tokyo ne serait plus livré par avion, mais par bateau, et Marseille n'attendrait plus 3 jours avant de recevoir ses commandes. Du bon sens, oui, et un peu d'organisation avec les vidéoconférences et autant de transports de personnes qui sont épargnés. Mais Chanel a tenu à mettre l'accent sur l'éco-conception en réalisant, en 2009, un logiciel de mesure d'impact environnemental des emballages cosmétiques. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la célèbre marque met aujourd'hui cet outil à la disposition de toutes les entreprises qui le souhaitent, et ce, gratuitement.
En 2009, on a défini un peu des priorités. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui va être important demain aussi, en vue de l'affichage environnemental, c'est le CO2. Puis on a pris un certain nombre d'autres éléments, l'impact sur les matières non renouvelables, l'acidification de l'air, l'eutrophisation de l'eau, etc. Et on en a fait une note complémentaire et on s'est dit, on va faire un outil. Et on va donner ça à nos développeurs, parce qu'en fait, on peut peut-être leur demander de faire de l'éco-conception, mais il faut leur donner quelques outils. Donc on a créé un petit logiciel. Donc on a deux critères, un critère qualitatif qui se permet, avec le marketing, de se poser les bonnes questions au départ. Comme tout se passe à la conception, bah, essayons de poser les bonnes questions tout de suite, parce que quand le produit est conçu, c'est un peu tard. Et deuxièmement, bah, on a ici un outil qui nous permet, pour chaque matière, alors on a en gros, on va dire, une cinquantaine de matières, une cinquantaine de process aujourd'hui. Donc vous cliquez sur la matière, vous mettez le poids, vous avez en fonction de cette matière, il va rechercher dans des bases de données la valeur CO2 en termes d'émissions de CO2. On a fait plus que ça puisqu'on est allé voir nos propres fournisseurs de l'industrie cosmétique et on a affiné les données. Ensuite donc on a lancé cet outil sur les trois axes, le parfum, le soin et le maquillage. Et puis on a aussi sensibilisé nos fournisseurs en disant bah, essayez aussi d'être proactifs et de nous proposer des choses. On ne va pas se dire on va réduire l'impact carbone de 50%. Hein. On ne fait pas du greenwashing, ce n'est pas la peine de raconter des bêtises. Mais on va se dire, on est une marque de luxe, on ne fait pas du bio, on n'est pas parti dans cet aspect-là. Mais simplement, on va essayer de faire un peu mieux demain, ce qu'on faisait peut-être pas trop bien hier. Et on n'est pas parfait, hein, mais on avance petit à petit dans notre démarche. Et lorsqu'on parle d'environnement, certains nous disent « mais c'est vachement contraignant de faire de l'éco-conception ». C'est vrai qu'on y passe plus de temps. Les ingénieurs de développement, ils nous disent « maintenant, je dois rentrer tout ça dans l'outil, ça me demande un peu plus de temps ». C'est vrai, mais d'un autre côté, quand on regarde bien, ça permet d'ouvrir un petit peu les champs de conception. On recherche des méthodologies et aussi des technologies qui ne sont pas dans nos métiers. On va chercher des choses ailleurs, on réduit le nombre de pièces, on trouve des process plus simples, plus économes en eau, plus économes en énergie. Et donc, d'un autre côté, même s'il y a quelques contraintes, parce que ça demande un peu de temps, mais d'un autre côté, ça ouvre le champ des possibles et ça donne plus de choix d'éco-conception et plus de choix dans les technologies. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'était l'année dernière, au mois de février. On a eu l'occasion de présenter notre outil. Cet outil s'appelle Winted. Mot simple en français, bien sûr, parce que ça veut dire « What I need to eco-design ». Bon, on a été obligé de trouver un nom farfelu parce que tous les noms en français étaient pris. Malheureusement, c'est celui-là qu'on a trouvé. Bon, et celui-là va bien. Donc, en février, on donne ça à tout le monde. On donne une licence gratuite. On annonce que, voilà, cet outil qui était Chanel, on a enlevé son ADN Chanel. On en a fait un outil neutre et on l'a donné à tout le monde. Et aujourd'hui, bah, il faut savoir qu'il y a 300 personnes, 300 sociétés qui l'ont téléchargé, qui ont demandé un accès gratuit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des confrères à nous, bien sûr. On a aussi des fournisseurs qui sont intéressés par cet outil, qui l'utilisent. Et surtout, ce qui nous a très intéressés, c'est qu'il y a des écoles qui se sont intéressées à cet outil. Donc ça permet aussi de toucher les jeunes générations qui prendront certainement le bon réflexe pour le futur.
Pour obtenir le logiciel d'éco-conception des emballages cosmétiques Winted, il suffit d'envoyer un message sur le site www.eva-conseil.com qui vous enverra une licence gratuite.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.